Anne-Laure Knell-Wolf, vous êtes médecin et vous vous intéressez particulièrement à l'hyperactivité chez le jeune enfant. Comment est-ce que vous êtes venue à vous intéresser à ce sujet ?
Tout d'abord, peut-être en repartant de mon parcours professionnel. Je suis donc médecin pharmacologue m'occupant de recherche clinique des médicaments chez l'adulte, mais également depuis quelques années à l'Institut supérieur de santé chez l'enfant. Au moment où j'ai commencé à travailler avec l'Institut, est arrivée, je dirais, toute la discussion de la prise en charge des troubles des conduites chez l'enfant suite à la mise sur le marché de produits pharmacologiques sur le marché italien. Et cette question est devenue vraiment une préoccupation à l'échelon national pour l'Institut.
Donc, si je vous comprends bien, vous êtes intéressée à l'hyperactivité chez le jeune enfant à partir des médicaments et non
Exactement.
Pas à partir d'une observation.
Exactement.
À quoi est-ce qu'on voit qu'un enfant est hyperactif ?
Alors, c'est effectivement une question très importante dans la mesure où l'hyperactivité chez l'enfant, ce n'est pas seulement un symptôme. Je dirais, l'enfant se présente hyperactif. Tous les enfants sont hyperactifs dans le sens où ils sont dynamiques, ils courent dans la cour, ils sont pleins d'énergie. Quand on parle, je dirais, d'hyperactivité au sens affection ou trouble de la conduite, il s'agit d'un ensemble de symptômes avec trouble de l'attention et activité, également impulsivité, et pour faire le diagnostic de ce trouble, c'est quelque chose qui nécessite une compétence pluridisciplinaire et qui ne se pose pas comme ça, juste en voyant un enfant un petit peu agité.
Parce qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement, il n'a pas toujours existé des enfants hyperactifs ?
Alors, là aussi, aujourd'hui, je crois qu'on peut considérer qu'on vit dans un monde où les enfants sont extrêmement sollicités. Ils ont une maîtrise parfois d'un certain nombre d'instruments comme l'ordinateur, les téléphones portables, les appareils photos bien supérieurs à leurs parents, qui créent probablement des relations, je dirais, pas des conflits d'autorité, mais bon, parfois on est amené à demander à nos enfants des conseils et des explications, et qui fait que le parent devient, dans
L'élève.
Certains cas, voilà, soumis à l'autorité de son fils ou de sa fille, qui va lui expliquer un certain nombre de choses.
Et ceci peut entraîner des troubles.
Ceci, non, ne peut pas entraîner des troubles, mais peut en partie expliquer que dans un certain nombre de cas, des enfants avec leurs parents réagissent d'une manière, je dirais, parfois difficile, avec des conflits d'autorité, parce qu'ils se retrouvent, c'est vrai, dans des situations un petit peu inverses. Alors, il est clair que l'hyperactivité est un ensemble de symptômes, comme je l'ai dit précédemment, et l'enfant se trouve en difficulté également à l'école, dans sa famille, à l'école, dans son environnement social. Et quand on parle d'hyperactivité comme trouble des conduites, c'est un ensemble de symptômes dans un ensemble de circonstances.
Ça dépasse les limites. Par exemple, un enfant hyperactif ne va plus s'apercevoir qu'il gêne autrui.
Par exemple ?
Il peut gêner en classe le travail des autres.
Il peut gêner le travail des autres. Il va déjà gêner sa propre conduite dans le sens où son travail ne sera peut-être pas toujours fait correctement, son attention ne sera pas toujours soutenue et entraînera des problèmes, des échecs scolaires.
Et alors, vous êtes médecin, pharmacologue, et on a envie aussi de vous dire, mais est-ce que c'est la médecine qui guérit ce genre de symptômes ? Est-ce que ce n'est pas aussi une attention plus particulière à l'enfant ?
Alors, je pense que c'est un ensemble, comme vous le dites fort justement, de facteurs pour la prise en charge, que ce soit une attention particulière pour l'enfant, à la fois, je dirais, des parents, du corps enseignant, font partie du traitement de ces enfants, toute une approche psychothérapeutique, soit individuelle, soit familiale, dans laquelle tous les acteurs, je dirais, de la vie de l'enfant doivent participer à aider l'enfant à gérer son trouble. Et puis, en dernier recours et dans les cas vraiment extrêmement sérieux, on peut avoir effectivement un traitement pharmacologique associé à cette approche psychothérapeutique.
Et alors, le traitement pharmacologique n'est-il pas trop lourd pour un enfant ?
C'est un traitement effectivement contraignant. C'est vrai que ce sont des traitements relativement lourds, hein, avec une compliance qui doit être suivie, parce que l'enfant doit prendre tous les jours son médicament. On fait des pauses en général le week-end et pendant les vacances scolaires, mais c'est un traitement lourd qui a aussi ses effets indésirables, et c'est la raison pour laquelle en Italie maintenant la prise en charge de ces enfants et le traitement pharmacologique doit être fait dans un cadre très strict, qui fait que les enfants avec une suspicion de diagnostic sont diagnostiqués dans des centres accrédités parce que ça relève de la compétence d'un groupe pluridisciplinaire, et ensuite une fois que le diagnostic est posé, la décision de mettre ou ne pas mettre sous traitement pharmacologique est prise de manière collégiale. Et si un traitement pharmacologique s'avère nécessaire, les enfants seront suivis, et en particulier le recueil des événements indésirables sera fait de manière très suivie, parce que c'est important de ne pas laisser ces enfants comme ça dans la nature sans se préoccuper de ce qui pourrait leur arriver.
Et là, entre la France et l'Italie, il y a une différence?
Alors effectivement, entre la France et l'Italie, il y a une différence. En France, le parcours diagnostique est aussi assez sévère, dans le sens où seuls les services hospitaliers sont habilités à délivrer la première ordonnance. Mais il n'y a pas de registre de suivi des patients, c'est-à-dire que les patients sont suivis tous les 6 mois à l'hôpital, reviennent en consultation pour éventuellement changer la thérapeutique, mais il n'y a pas un suivi aussi précis que comme en Italie avec le registre, où tous les événements sont collectés mois par mois à chaque visite au niveau de l'Institut supérieur de santé.
L'enfant hyperactif, il peut rester à l'école ?
L'enfant hyperactif peut rester à l'école, effectivement, et il faut qu'il reste à l'école parce que c'est son environnement. Par contre, on va, avec des traitements psychothérapeutiques, l'aider à mieux gérer un certain nombre de situations devant lesquelles il est confronté. On va aussi aider l'enseignant ou l'enseignante à ajuster un certain nombre de comportements vis-à-vis de l'enfant pour qu'il puisse se sentir plus à l'aise. Il y aura probablement si l'enfant présente des troubles associés de l'apprentissage ou de dyscalculie, parce qu'un certain nombre de troubles peuvent être associés, à ce moment-là, on lui donnera des cours spécifiques pour pouvoir rattraper ses retards.
Comment est-ce que les parents réagissent quand ils ont un enfant hyperactif ?
Pour les parents, effectivement, ça peut être parfois très, très difficile, parce que les parents sont souvent un peu désespérés, ils ne savent plus à quel sein se vouer.
Pourquoi ils sont désespérés ? Parce que l'enfant ne leur obéit plus, qu'ils n'ont plus aucune maîtrise sur l'enfant.
Ça peut être ce genre de situation. Et puis, si c'est un enfant en échec scolaire, qui est ensuite rejeté par son entourage, à la fois à l'école ou dans ses activités en dehors de l'école, crée des situations insoutenables pour les parents. Sur l'origine du trouble, et on dit multifactoriel, dans le sens où on n'a pas identifié un facteur particulier à l'origine du trouble. On parle de dysfonctionnement au niveau cérébral, au niveau des neurotransmetteurs et de la dopamine. Bon, c'est une piste. Ensuite, dans la famille, on peut retrouver un facteur familial de parents qui ont éventuellement eu soit des dépressions. Enfin, il peut y avoir un contexte familial de troubles psychologiques qui peut aussi éventuellement être un facteur favorisant. On a évoqué des pistes génétiques, mais rien encore n'a trouvé le gène de l'hyperactivité. Donc, je crois aujourd'hui, on en est dans un flou artistique de ce côté-là, dans le sens où on dit que la pathologie est multifactorielle. On n'a pas identifié une cause particulière.
J'imagine que certaines mamans nous écoutent en ce moment, peut-être des mères qui ont des enfants hyperactifs. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les encourager ?
Eh bien, tout d'abord, je crois qu'il faut enlever les tabous. Je crois que bon, on peut avoir effectivement à se trouver devant ce genre de situation d'enfant hyperactif. Il faut peut-être pas être alarmiste en disant mon enfant est un peu agité, donc forcément il est malade, il est pathologique. Enfin, je crois qu'il faut aussi ne pas toujours être alarmiste. Je veux dire, l'enfant, c'est normal qu'il s'agite et qu'il vive.
Et puis, on peut aussi dire qu'un enfant vit des crises, comme chaque
exactement,
année.
Exactement. Le trouble est quelque chose, avant de porter le diagnostic, est quelque chose qui dure depuis un certain nombre de temps, qui s'est manifesté avant l'âge de 6 ans. Et donc, comme vous dites, effectivement, les enfants passent par des phases. Alors, si on a vraiment des doutes et des inquiétudes et que l'enfant se retrouve en échec scolaire et présente de nombreuses autres difficultés, effectivement, là, je pense que c'est nécessaire d'aller consulter. À Rome, il y a ces centres agréés par l'Institut supérieur de santé, avec des experts en neuropsychiatrie extrêmement compétents, puis également en France, les neuropédiatres et neuropsychiatres hospitaliers.
Quels sont les défis, les perspectives auxquelles vous êtes confrontés?
Je ne sais pas si vous avez entendu dernièrement, en France, vient d'être mis sur le marché un médicament pour la dépression chez l'enfant. Et c'est vrai que ce genre de choses pose effectivement d'énormes problèmes. Je pense que le défi futur va être pour l'Italie, mais pour la France et pour tous les pays, je dirais, européens, de comment prendre en charge toute cette pathologie neuropsychiatrique infantile qui est une réalité. On parle beaucoup de la dépression de l'enfant, l'hyperactivité et un certain nombre d'autres troubles. Et comment affronter ceci sans exposer l'enfant, je dirais, à des risques inconsidérés, mais tout en tenant compte qu'un certain nombre d'enfants ont besoin d'une prise en charge et que cette prise en charge doit être absolument sécurisée et faite dans des conditions optimales.
Merci.
Merci à vous.